Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock. Cette fois-ci, ça sera peut-être la plus country de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Voilà, une émission où il va être beaucoup, beaucoup question de réédition, mais aussi de deux inédits. Un coup de cœur, un roman que tu as beaucoup aimé, Jacques, et puis un que j'ai beaucoup aimé.
Et moi aussi, d'ailleurs.
Voilà, deux polars au ton très, très différent. Mais avant tout, je voudrais m'excuser de cette voix un peu particulière, un peu cette voix de gorge. Le rhume essaye de trouver mon cerveau, donc je m'excuse par avance aussi peut-être de quelques éternuements intempestifs. Voilà, donc ça c'est fait. On va commencer par deux romans qui viennent d'être réédités par les éditions Gallmeister. Et on voudrait aussi carrément remercier en public ces éditions du travail patrimonial, presque historique, auquel se livre toute l'équipe pour nous faire redécouvrir, à travers de nouvelles traductions ou des traductions révisées, des pépites du roman noir américain. On se souvient peut-être que le premier roman d'ailleurs édité par ces éditions, c'était Le gang de la clé à molette, je l'évoque assez régulièrement, un roman mythique d'Edouard Abbé. Et depuis, il y a toujours eu un travail de retraduction et d'édition, mais qui s'amplifie, je trouve, ces dernières années. On a par exemple la retraduction des aventures de Lew Archer, Ross MacDonald. Donc Lew Archer, c'est un détective privé un peu à l'ancienne, hein, un tough guy qui suit un peu les personnages de Chandler et autres privés américains. Et puis, il y a le travail sur Larry Brown. Et Jacques, tu vas nous parler d'un des plus beaux romans de cet écrivain, un roman qui s'appelle Faye. Je crois que c'est le troisième que retraduit, que reprend.
Oui, en fait, j'allais dire c'est mon préféré, mais en fait, à chaque fois que j'en lis un, c'est celui-là mon préféré. Donc, c'est un roman qui s'appelle Faye, de Larry Brown, donc, qui est traduit par Daniel Lemoine. Donc, il est réédité en format semi-poche, c'est la collection Totem Noir. Et il était paru en 2002 dans la collection La Noire chez Gallimard. Alors, Faye, c'est une jeune fille de 17 ans, du nord du Mississippi, donc c'est le sud des États-Unis. Elle quitte un beau jour sa famille pour aller vers le sud, vers le chaud, vers Biloxi et la mer, tout au bout du delta de ce Mississippi, justement. Pourquoi elle part ? Elle le dit un moment dans le livre. « Mon père est un ivrogne, ma mère une débile, et ils habitent une petite masure pourrie dans les bois. Et le plancher est si sale qu'on ne peut pas y marcher pieds nus. Et il faut faire attention à l'intérieur parce que les guêpes y font leur nid. Ça vous suffit ? En fait, il n'y a pas que ces raisons-là, vous les verrez en lisant le livre. On peut craindre pour elle au début, car elle est belle, et elle se rend bien compte que les hommes la regardent bizarrement, surtout au niveau de la poitrine qu'elle a, plutôt forte. Elle se doute de ce que veulent les hommes, ces hommes, même si elle n'a pas vraiment d'expérience de ça, comme elle dit. Ceci dit, elle apprendra très vite. Faye est candide, pas vraiment naïve, mais plutôt un peu ingénue. Sa première rencontre avec trois jeunes hommes revenant de la pêche au poisson-chat, pourrait assez mal tourner pour elle si les gamins ne préféraient pas finalement d'abord la bière et l'alcool. Elle va croiser d'autres hommes durant sa longue, comment dire, escapade. Un flic, puis un videur de boîte de nuit. Et tous les deux vont se briser les ailes à s'être approchés trop près de la belle jeune femme. Faye ne restera pas vraiment indemne non plus. Si, comme le dit le poète, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, elle a 17 ans, Faye grandira très très vite tout au long des quand même 540 pages de ce roman. Faye, c'est pas le plus noir des romans de Larry Brown, on est loin de Père et Fils paru dans cette même collection, tu en parlais. Mais Larry Brown a toujours ce grand art pour nous raconter les gens de l'Amérique profonde. Dans celui-ci, c'est tout au long du Mississippi. On traverse presque tous les counties. Et il y a quelques portraits magnifiques de personnages qui ne sont pas forcément d'ailleurs magnifiques. Mais Larry Brown ne juge jamais ces personnages. Il n'y a pas de héros dans Faye. Il n'y a pas non plus de vrais salauds. Des gens simples, souvent, avec une petite vie assez tranquille qui va être bousculée pour certains, bouleversée pour d'autres par cette femme somme toute, femme fatale. Mais pas une fatale à la Chandler, une fatale de campagne, si j'ose dire.
Et une fatale du roman noir.
Une fatale du roman noir, certes, ça c'est sûr. L'écrivain, en fait, avait l'humanité chevillée au corps, et cela se ressent dans chaque ligne de ce roman. Et en plus, il sait parfaitement, pour nous maintenir dans son histoire, par de simples petits détails, rendre la vie de ses personnages plus vivant que nature. La musique country qui grésille dans l'autoradio, ou les canettes de Michelob que l'on balance à l'arrière du plateau, tout en roulant juste le plateau du pick-up.
Je voudrais préciser une chose, hein, c'est pas Michelob.
Non, Michelob, c'est de la bière.
C'est de la bière, Michelob.
Voilà, tout en roulant, évidemment, juste à la limite de la vitesse autorisée, car le long de ces routes, il y a plein de flics qui surveillent, dont un d'ailleurs, qui aura un rôle assez essentiel. Je voudrais pas en dire plus, c'est vraiment un roman qui est passionnant, il se lit presque d'une traite. Donc je rappelle, Faye, F-A-Y, hein, de Larry Brown, traduit par Daniel Lemoine et réédité chez Gallmeister.
Je crois que la traduction a quand même été révisée.
Non, a priori, elle n'a pas bougé, non. C'est la traduction de 2002.
Voilà. Et ben, tu parlais tout à l'heure d'une escapade de cette jeune fille. Est-ce que ça correspond un petit peu, comme le livre dont je viens de parler, à aussi une errance, finalement, de ce personnage ou d'autres personnages? Parce que moi, c'est aussi des escapades, mais c'est aussi beaucoup des errances.
Oh ben, comme elle ne sait pas trop où elle va, où elle veut aller, elle sait pourquoi elle est partie, mais c'est à peu près tout ce qu'elle sait. Donc, évidemment, le reste, elle va l'apprendre parfois un peu à la dure, mais elle sait faire.
Alors, si vous allez acheter Faye chez votre libraire favori, vous prenez un sac un petit peu plus gros et puis vous y joignez Le Dernier Baiser de James Crumley, qui vient de ressortir, alors là, une nouvelle traduction de Jacques Maillos, et qui vient de ressortir aux éditions Gallmeister. Alors, je parlais du travail, hein. L'année dernière, les éditions Gallmeister avaient retraduit et republié le premier roman consacré à Milo Dragovic. C'est un roman qui s'appelait Fausse Piste, et ce roman était magnifiquement agrémenté, accompagné de dessins, de vignettes, de chapeautés. Donc, dans Le Dernier Baiser, on va rencontrer un autre personnage à la ramasse. C'est le premier de plusieurs romans de James Crumley. Et son nom, c'est C.W. Sugru. Et en fait, ça veut dire Chauncey Wayne Sugru. Je vous parlais de la traduction de Jacques Maillos. Il a fait un boulot fantastique. Il s'attache là beaucoup plus que dans la première traduction à la poésie, à la musique des mots de Crumley, mais tout en conservant la rudesse et l'âpreté des personnages et des situations. Et Maillos, il arrive à faire transparaître tout l'amour que portait le grand écrivain américain pour ses personnages, et évidemment, à travers ses personnages, pour le genre humain. Ainsi, beaucoup de choses semblables avec Faye, hein. Ainsi que le talent immense, l'émotion que portent les mots et les phrases de ce grand écrivain. Et quand on dit grand écrivain, ben je crois que ça peut être soit Larry Brown, soit James Crumley. Mais revenons donc à ce personnage de C.W. Sugru, qui a, je dois le dire, bien des points communs avec l'autre Milo Dragovic, vétéran du Vietnam, alcoolo, pas beau, détective assez minable en fait, semble-t-il, qui court le cachet pour effectuer des petits contrats, terne et peu gorgueux. Un contrat de plus, retrouver l'écrivain alcoolique Avraham Traherne. Alors ça c'est très dur avec mon débouché, mais Avraham Traherne, c'est un colosse cabossé qui fugue de bar en pub. Sugru, c'est pas pour lui déplaire. Il part au volant d'une El Camino. Alors ça, c'est quand même assez mythique.
Il y a exactement la même dans Faye, tu vois, comme voilà. Quoi.
Bon, elle est un peu déglinguée, mais elle est belle quand même, cette voiture. Et leur alcoolisme à l'un et l'autre ne va pas s'arranger, parce que déjà, on va retrouver l'un et l'autre à côté d'un bulldog. Vous savez, il y a les chiens, hein. C'est vraiment un chien, qui a un joli nom, Fireball, et qui lape sa bière dans un cendrier. Les premières scènes de ce roman, c'est carrément magique. Assis sur un tabouret de bar, bien sûr. Tout à la fois drôle, cocasse. Les chiens alcoolos, il n'y en a pas qu'un, hein, parce qu'il va aller de bar en bar, il en trouve plusieurs de chiens alcoolos. Et puis la première bagarre entre...
Il n'y a pas que les chiens.
Il n'y a pas que les chiens. Sugru, Traherne et les poivrons du coin. Et aussi des scènes tendres, pétries d'humanité. On s'attache tout de suite au paumé du Rad, mais aussi à la propriétaire Rosie. Évidemment, au chien Fireball. Et puis on s'attache au pas des deux acolytes alcooliques, Traherne et Sugru, qui vont partir donc à la recherche, bras dessus, bras dessous, plutôt bouteille de bourbon sur bouteille de bourbon, à la recherche de Betty Sue. Betty Sue, la fille de Rosie, partie, comme tu le disais tout à l'heure, en escapade, mais depuis bien d'années. Et Rosie, elle n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'ils vont partir à la recherche de Betty Sue ? Certainement, mais aussi sur les pas de leur propre démon, voire à la recherche d'une rédemption impossible à trouver, à part dans les vapeurs du énième verre de Bourbon au petit matin. Ils vont avaler des kilomètres de poussière dans cet ouest mythique, des litres d'alcool. Ils vont recevoir des coups de poing, ils vont en donner, ils vont recevoir des bleus, il va y avoir des os brisés, des dents cassées, des coups de feu tirés. Et pourtant, on revient toujours au départ. On revient toujours inexorablement au point de départ. Sugru, finalement, n'aura pas perdu ses illusions. Il n'en avait pas au début. Mais quand même, son errance va être pavée de chair, de sang. Et puis, il faut bien dire, de lambeaux d'amour. Parce qu'il est question d'amour dans ce livre. Ainsi que le dit Traherne à Sugru, les histoires, c'est comme des instantanés, fils. Des instants arrachés au flot du temps, avec des bordures propres, nettes et dures. Mais là, c'est la vie. Et la vie commence et s'achève dans un bazar sanglant. Du berceau au caveau, ce n'est qu'un gigantesque bazar. Une boîte remplie de verre qu'on laisse pourrir au soleil. Fin de la citation. Dans tout ce bazar, ce désespoir, il est des voix, des plumes, comme celle de James Crumley, dont on ne se lasse jamais. Ce qu'il faut bien le dire, un roman pareil, de cette qualité, ben ça aide à vivre. Et les mots de l'écrivain du Montana sont en accord parfait avec les illustrations de Thierry Murat. J'en ai pas beaucoup parlé, on n'a pas trop le temps d'en parler. Il y a donc une page complète à peu près par chapitre et puis des petites vignettes au début de chaque chapitre. Et ça illustre vraiment bien, ça illustre d'ombre et de lumière, des fragments de texte. Ça fige les instants de vie que décrit James Crumley, c'est vraiment très très
des
bien.
Des vignettes et des dessins qui ont l'air d'être à l'encre de Chine en noir et blanc.
Voilà, donc je rappelle Le Dernier Baiser, retraduit par Jacques Maillos, c'est aux éditions Gallmeister.
Et c'est de James Crumley.
Voilà, illustré par Thierry Murat. Un petit peu de musique maintenant ?
Oui, avec ces deux romans, on ne pouvait mettre que de la country, j'ai déjà dit presque au début. J'aurais pu mettre le Jackson de Johnny Cash, puisque dans Faye, c'est un des points, cette ville est un des points de passage du roman. Mais j'ai choisi une chanson de Merle Haggard qui s'appelle Rambling Fever, qui est plutôt gay et qui est extrait de l'album du même nom, Rambling Fever, paru en 1977. Merle Haggard.
Same old song, and I don't leave the highway long enough to bog down in the mud, 'cause I've got rambling fever in my blood. I caught this rambling fever long ago when I first heard a lonesome whistle blow. If someone said I ever gave a damn, the damn sure told you wrong. I've had rambling fever all along. Rambling fever, the kind that can't be measured by degrees. Rambling fever, there ain't no kind of cure for my disease. There's times I'd like to bed down on the sofa and let some pretty lady rub my back and spend the early morning drinking coffee and talking about when I'll be coming back. Cause I don't let no...
C'était donc Rambling Fever de Merle Haggard.
Eh bien, on va rester aux États-Unis pour vous parler, je parlais des inédits, donc d'un roman, d'un court roman, qui s'appelle Albuquerque. C'est un roman de Dominique Format et c'est à la Manufacture des Livres. Comme j'ai dit, on reste aux États-Unis. On va dire que c'est une des passions de Dominique Format, l'auteur de ce court récit. Une passion qui peut d'ailleurs tourner selon au dégoût, voire à la haine. Mais on reste toujours dans des sentiments exacerbés, que ce soit dans ce roman ou dans certains précédents. Au début de ce récit, on fait la connaissance de Jamie Ashton. C'est un gardien de parking à Albuquerque, d'où le titre du roman. En gros, tout ce qu'il y a de pépère. Ça ne va pas durer longtemps. Hein. Dès la deuxième page, on comprend qu'il est un de ses témoins qui bénéficie du programme de protection du FBI. C'est-à-dire qu'après quelques exactions, voire beaucoup, il a accepté de témoigner contre ses copains et le FBI, contre ça, lui a offert
une nouvelle identité
à l'autre bout des États-Unis. Et malheureusement, cette nouvelle identité, enfin là ça fait des années qu'il est installé dans cette nouvelle identité, mais eh ben, les méchants, ils viennent de le retrouver. Il échappe assez rapidement ses poursuivants.
En se défendant plutôt bien.
Plutôt bien, oui. Et il va chercher sa femme pour fuir. Mais il la retrouve en train de faire ses valises pour le quitter. Enfin, ça, on va le comprendre assez rapidement. Et de manière très habile, Dominique Format détourne la fuite éperdue, les rebondissements, les scènes de violence, les souvenirs d'avant, avant d'avoir changé d'identité, pour nous raconter la lente mais inexorable déliquescence d'un couple. Avant, parce que ça a commencé il y a très longtemps, avant leur nouvelle identité, et puis depuis, et surtout maintenant dans la voiture qui leur permet de fuir. Et on finit par se demander qui est le plus Jamie. Ses anciens copains de braquage, qui le poursuivent pour se venger, méchamment, ou bien sa femme, Jackie. Et la violence de certaines scènes n'est rien, je trouve, par rapport au dédain, au regard que porte Jackie sur son compagnon, sur
oui,
son mari.
C'est
assez glaçant, je dirais. Et ce pauvre Jamie qui y croit encore, je cite, c'est pratiquement à la fin du roman. Hein. Jamie croyait regagner son respect. Il espérait même un retour d'affection. Non. Voilà, c'est non. Comme j'ai dit, c'est un récit très rythmé. Des mots qui claquent, des situations qui s'enchaînent, hein, on est dans une fuite éperdue, au rythme de ce voyage. Et Dominique Format, il contourne, il détourne les mythes du roman noir américain dans ce petit roman, parce qu'on a cette ruée vers l'ouest salvateur, hein, on va passer une frontière, on passe de Albuquerque à Los Angeles, enfin tout au moins ils vont essayer de parvenir à Los Angeles malgré les embûches.
Et ils passent bien sûr par là. Fameuse route 66.
Voilà, on a l'Interstate 110, on a la route 66, la route 66. Pour y trouver quoi à Los Angeles, ben, je n'en dirai pas plus.
Qui n'est pas forcément la ville des anges, si...
Voilà, c'est surtout que dans les précédents romans,
oui.
Dominique Format nous avait donné une vision de Los Angeles qui, effectivement, est très très loin d'une vision angélique. Et en fait, ben, je vais vous laisser... découvrir ce récit punchy, décalé à souhait, voilà, qui se lit très rapidement, en une soirée. C'était très très agréable.
Ce qui est sûr, c'est que quand il a écrit, il n'avait pas forcément une belle idée de la vie de couple. En tous les cas, c'est pas forcément ce qu'il a, ou en tous les cas, c'est ce qu'il ressort à la lecture
de son roman. Eh bien, on va vous dire dans quelques instants pour la prochaine partie d'émission.